Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Le voyage du pape en France a été un véritable révélateur pour beaucoup de Français. Alors que les visions les plus réductrices étaient colportées, notamment et surtout par les médias, la meilleure réponse, au fond, a été donnée par le successeur de Pierre lui-même. À travers sa leçon au Collège des Bernardins sur les origines de la culture européenne devant un parterre du tout Paris culturel, à travers le ton calme et confiant de ses sermons sur une esplanade des Invalides noirs de Monde ou bien devant les malades à Lourdes, à travers aussi ses exhortations à la jeunesse en face de Notre-Dame de Paris. Le pape n'a pas besoin d'élever la voix. Dans un style totalement différent de son prédécesseur, le pape Benoît XVI se révélait à la France pour mieux en conquérir les cœurs, mais aussi et surtout les intelligences. Dans son édition du 19 septembre qui rendit compte de ce voyage, l'hebdomadaire anglais The Catholic Herald titrait « Le pape prend les Français par surprise ». La surprise était effectivement qu'un charisme de toute autre nature que celui de Jean-Paul II nous est apparu à l'occasion de ces 4 jours passés à Paris et à Lourdes. L'émission Éclairage vous propose aujourd'hui de découvrir plus en avant cette personnalité complexe en vous montrant comment ce pape crée précisément un renouveau intellectuel, un redressement théologique de l'intelligence chrétienne. Mais vous le savez, chaque pontificat doit faire face à des défis. Aujourd'hui, nous parlerons plutôt de tentation. En 1996, paraissait un ouvrage signé d'Alain Besançon intitulé « Les trois tentations de l'Église ». Antidémocratie, démocratie, islam, telles seraient ces trois tentations de l'Église contemporaine depuis les révolutions des 18e et 19e siècles. Benoît XVI, donc, face aux trois tentations de l'Église, tel est le sujet de cette émission. Alain Besançon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je viens de le dire, vous êtes l'auteur des trois tentations de l'Église, un ouvrage paru et réédité chez Perrin dans la collection De Poche, la collection Tempus. Vous suivez bien évidemment de près l'actualité religieuse. Vous avez notamment écrit plusieurs articles dans la revue Commentaire. Il faut s'abonner à la revue Commentaire.
Et comment ?
Et dernièrement, donc, vous avez écrit un article intitulé « Vatican et l'islam ». Vous collaborez, en tous les cas, vous envoyez régulièrement des articles à l'Osservatore Romano, qui est donc disponible en France aux éditions de L'Homme Nouveau. Alors, j'ai voulu recevoir aussi au micro de Canal Académie pour cette émission le père Ibera. Mon père, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes traducteur d'un livre dernièrement, le livre d'Ella Nichols, « La pensée de Benoît XVI », une introduction à la théologie de Joseph Ratzinger. Alors à l'origine, ce livre est sorti en 1988 et il a été réédité bien évidemment après l'élection du cardinal en 2005. Vous êtes professeur à l'école cathédrale au Collège des Bernardins, où vous allez d'ailleurs donner une série de cours à partir de la mi-octobre, si mes souvenirs sont bons. Et enfin, vous êtes vicaire à Saint-Eugène. Alors, je me retourne vers Alain Besançon et avant d'en venir aux trois tentations de l'Église, je souhaiterais évoquer ce que vous appelez le redressement théologique de l'intelligence chrétienne. J'ai repris ce titre dans mon introduction, c'est une expression que vous avez utilisée dans un article de l'Osservatore Romano. Qu'entendez-vous par ce redressement ? Et quitte à vouloir ouvrir une porte grande ouverte, est-ce que le voyage en France du pape Benoît XVI vous a conforté dans votre point de vue?
Écoutez, comme je suis historien, je suis obligé de remonter assez loin. Il y a eu, pendant des siècles, une espèce de monopole de la haute pensée par l'Église ou par des chrétiens. Et des chrétiens qui se trouvaient à l'aise dans l'orthodoxie chrétienne. Cela a pris fin à peu près au XVIIe siècle. Vous remarquerez qu'à partir du XVIIe siècle, toute la série des grands philosophes, qui sont très grands, ne se sentent pas à l'aise dans l'orthodoxie chrétienne. Que ce soit Descartes encore, mais enfin Leibniz, Kant, Hegel, enfin toute la grande série, n'est-ce pas, n'est pas à l'aise dans l'orthodoxie chrétienne. Et l'orthodoxie chrétienne, pendant ce temps-là, ben, elle se sclérose, elle devient un peu répétitive, elle n'arrive pas à être à la hauteur de ces très grands esprits. Je ne sais pas à partir de quand il faut considérer qu'il y a ce décrochement. Peut-être la panique qui a suivi la réforme protestante et les mesures disciplinaires prises au moment du Concile de Trente. Je pense à une mesure comme l'index, qui a quand même duré de 1560 à Vatican II, hein, et dans lequel, qui contient à peu près toute la pensée moderne et toute la littérature moderne, hein, tout ça est jeté au panier de l'index. C'est-à-dire quand même, en France, ce n'était pas tellement gênant, mais enfin, pour les prêtres, pour les séminaristes, etc., il fallait quand même, c'était quand même un obstacle pour se tenir au courant. La théologie, vous avez eu une période de stérilité théologique extraordinaire au XVIIIe, XIXe siècle. Au XIXe siècle, moi je vois deux théologiens très éminents, si vous voulez, Newman, mais il a été formé par l'Église anglicane, avant d'arriver à l'Église catholique, et Soloviov, qui était un produit aberrant et de l'Église orthodoxe russe, et qui a fini par trouver une voie pratiquement d'accord complète avec le monde catholique. Quelques théologiens en Allemagne, n'est-ce pas, Müller, Schoeben, pas de français. Il y avait pourtant des facultés de théologie en France dans tout le XIXe siècle. C'était des morceaux oratoires, mais ça ne pouvait pas intéresser les honnêtes gens. Hein. Vous avez eu la crise moderniste en France qui a été prise de façon extrêmement brutale et sévère, avec de nouvelles mesures disciplinaires qui n'ont pas été favorables au développement de l'intelligence. La réception de Renan, par exemple, Renan était quand même un esprit éminent, hein, eh bien, sa réception a été d'une sottise, dans l'ensemble, tout à fait effrayante. Et disons, vous avez un beau moment théologique en France, je dirais dans les années de 40 à 60 du XXe siècle. Vous avez eu quand même des beaux esprits, vous avez, même un peu avant, disons, des Gilson, des Maritain, des Lubac, etc. Bon, je n'ai pas l'impression que ça ait irrigué l'intelligence catholique dans son ensemble. Ils sont restés des apax, si vous voulez. Et quand on regarde le déroulement de Vatican II, quand on regarde les documents de Vatican II, mais il y a une absence effarante de la part de l'épiscopat français. Ils se fichent totalement des problèmes de vérité. C'est pour ça, si vous voulez, que je crois que le lieu stratégique où on peut espérer un redressement de l'Église, ce sera un redressement de l'intelligence théologique dans l'Église. Vous avez eu beaucoup de théologie à Rome depuis un certain temps. Léon XIII, Pie XII, Pie XI. Ce n'est pas très normal que la théologie se fasse à Rome. Dans l'histoire de l'Église, la théologie ne se fait pas à Rome. La Rome dit le droit de la foi, mais elle ne fait pas de théologie. Elle ne fait pas de théologie. La théologie se faisait à Paris, à Salamanque, à Oxford, à Cologne, enfin dans des endroits comme ça, à Louvain encore, mais elle ne faisait pas à Rome. Ben, malheureusement, comme tous ces foyers de pensée théologique se sont éteints les uns après les autres, c'est Rome qui a été obligée de... Et pas tellement faite pour ça. Moi, j'ai été frappé de voir que dans la collection des conciles, presque les trois quarts du volume sont occupés par le concile de Vatican II. Il y a quand même une inflation de textes romains qui est extraordinaire. Alors, est-ce que ces textes romains sont à la hauteur des réquisites intellectuels de l'époque? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Notre ami, le professeur à l'école cathédrale, hein, est peut-être mieux armé que moi pour en parler.
Mon père?
Je pense que pour la théologie, effectivement, il y a eu une période quand même qui a été absolument capitale. Enfin, je dirais deux points importants. Au moment où Léon XIII va reproposer saint Thomas d'Aquin comme théologien privilégié pour justement sortir de cette décadence théologique des XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, mais qui malheureusement va certainement être abordé à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, malgré des grands esprits, un peu avec un esprit de système. C'est justement ce que le cardinal Ratzinger, quand il était séminariste encore, va reprocher à la théologie pro-thomiste ou néo-scolastique. qui va être proposée à Munich, à Freising, quand il était étudiant. Vous savez, avec Michael Schmaus, par exemple, l'auteur d'une grande synthèse dogmatique d'inspiration néo-thomiste, néo-scolastique, que les séminaristes allemands surnommaient, ça s'appelait « Mysterium Salutis ». Ils abréviaient ça en disant « Musal ». Musal, en allemand, ça veut dire « pénible ». Parce que c'était un peu desséché, etc. Alors, je pense que l'autre élément, vous avez cité Newman tout à l'heure au 19e siècle, ce qui a transformé Newman, qui l'a fait sortir de ce qu'il appelait aussi la « dry church », enfin, pas lui qui le disait,
high
mais
dry.
La « high and dry » aussi.
Oui, high and dry, oui.
Donc, aussi d'une théologie anglicane qui était desséchée. Ça a été la redécouverte des pères de l'Église à l'occasion de ses travaux sur Arius. Et je pense que c'est ça qui a aussi provoqué une sorte de, peut-être de ressourcement, comme diront un certain nombre de théologiens à l'époque de Vatican II, de ressourcement de la théologie catholique. C'est le retour aux sources, effectivement, et aux sources patristiques.
Mais alors, justement, on sait que Benoît XVI, depuis son élection, chaque mercredi donne un cours de catéchisme en montrant ses pères de l'Église, en présentant ses pères de l'Église. C'est ce renouveau dont vous parlez ?
L'automisme avait eu une fortune extrêmement accidentée dans l'Église depuis la mort de saint Thomas, qui avait été quand même désavoué par la Sorbonne en 1274. Et alors, c'est Léon XIII qui, dans une encyclique, a proposé qu'on revienne à saint Thomas comme une espèce de base de l'enseignement catholique. Ce qui a été accompli, mais peut-être accompli trop bien, c'est-à-dire que vous avez eu d'innombrables manuel qui, en somme, faisait des digestes de saint Thomas d'Aquin, chacun selon sa lecture, et ça donnait une bouillie extrêmement indigeste. Et alors, ce qui est frappant, c'est que le renouveau théologique contemporain, justement, de Ratzinger, et un peu avant, on a cité de Lubach, ça consistait un peu à sortir du thomisme des manuels et à revenir à la patrologie, et aussi, d'une certaine façon, à un certain augustinisme.
Exactement, parce que Augustin est quand même à la base de Thomas.
Voilà. Et alors, en somme, Ratzinger n'appartient pas à l'école thomiste. Il connaît bien saint Thomas, il l'apprécie comme tout catholique et comme tout pasteur catholique. Mais enfin, lui, ses références, c'est effectivement les sources chrétiennes. Là, je signale quand même peut-être le plus bel exploit de la philologie française depuis la guerre, c'est les 500 volumes de la collection Sources chrétiennes. C'est quand même un exploit discret, mais considérable. Bon, alors je pense qu'il a vécu au contact de ces sources-là, Ratzinger, et en même temps des théologiens allemands essentiellement... Rahner, pas seulement Karl, mais
Hugo, surtout.
Mais Hugo qui est beaucoup plus certain et beaucoup plus sûr, à mon avis. Que
oui, un patrologue.
Je pense que Hugo est bien meilleur que Karl. Romano Guardini, qui cite tout le temps aussi, qui est un esprit... Enfin, c'est pas un très grand type, mais enfin, c'est quand même un bel esprit.
On peut dire que c'est un vulgarisateur de la théologie, c'est-à-dire quelqu'un qui était capable de faire la spiritualité nourrie de théologie.
Voilà, et de bonne théologie.
Quelqu'un comme Zundel en milieu francophone.
Et puis Lubach, j'ai l'impression qu'il a beaucoup lu Lubach, il a étudié en France sous Lubach, c'est là qu'il a appris le français, je pense. Quand ça, je ne sais pas exactement, dans les années 45, etc. Alors, le trajet théologique de Ratzinger est original, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'apprendre les manuels de ça, mais il a vraiment réfléchi lui-même. C'est un écrivain, c'est un professeur, c'est un homme qui fait des livres qu'il pense par lui-même, il ne se contente pas de répéter, c'est un esprit original. C'est un grand Herr Doktor Professor à l'allemande, avec toute la majesté de cette pensée allemande. C'est assez remarquable.
Alors nous aurons l'occasion, bien évidemment, de revenir précisément sur cette pédagogie, la pédagogie du pape Benoît XVI. Je vous propose de nous retrouver dans un instant.
Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Alain Besançon, auteur du livre « Les trois tentations dans l'Église » et le père Iborra qui vient de traduire « La pensée de Benoît XVI, introduction à la théologie de Joseph Ratzinger ». Il s'agit d'un ouvrage d'Edan Nichols qui a été donc traduit en français chez Ad Solem. Alors, nous reprenons donc le cours de cette émission et je voudrais directement aller vers ces fameuses trois tentations dans l'Église que vous avez définies, Alain Besançon, en 1996. Et c'est, alors bien évidemment, il s'agit d'une maturation intellectuelle. La première tentation, c'est la tentation, au fond, antidémocratique.
Ah, il faut comprendre ce qui s'est passé. L'Église était extraordinairement liée à tout ce énorme héritage qu'était l'Ancien Régime. Et le nouveau régime n'a pas ménagé l'Église. Il y avait eu ça commence d'ailleurs avant. Déjà, les monarchies n'aimaient pas trop l'Église. Enfin, les jésuites ont été conjointement supprimés par Pombal du Portugal, le roi d'Espagne.
Les monarchies bourbons
s'apprêtaient à liquider la papauté. C'est Napoléon Ier qui a sauvé la papauté d'une certaine façon. Hein, c'est pour ça que le rêve carolingien de Napoléon est d'une certaine façon justifié. D'ailleurs, la papauté a été très gentille avec Napoléon après sa chute. Elle a recueilli la famille, etc. Elle était reconnaissante. Enfin, donc, le nouveau régime, pour l'Église, ça a été une horreur. Mais songez quand même que la France a été déchristianisée à peu près à moitié. Il n'a jamais retrouvé ses positions. Tous les évêques ont dû donner leur démission au moment du concordat. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'Église. Alors l'Église a été assez bête, quoi, politiquement. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle a été heureuse que pendant une seule époque au XIXe siècle, où elle aurait mieux valu qu'elle ne fût pas heureuse, c'est l'Empire autoritaire de Napoléon III. Parce qu'elle était malheureuse sous la Restauration, où elle ne retrouvait pas ses positions. Elle a été malheureuse sous Louis-Philippe, qu'elle soupçonnait avec raison d'être un roi assez laïque et un gouvernement assez laïque. Et elle a été heureuse sous l'Empire autoritaire. Puis de nouveau malheureuse sous l'Empire libéral et abominant la République. Eh bien ça, c'était pas une très bonne idée. J'ai fait une fois au curé de ma paroisse le tableau suivant, c'est que l'illustre compagnie du curé de Paris a été ligueuse au moment des guerres de religion. Elle a été frondeuse sous Louis XIII. Elle a été janséniste au XVIIe siècle, elle a été janséniste subversive au XVIIIe siècle, elle a été pseudo-ultramontaine sous la Restauration, c'est-à-dire toujours ennemie de l'État, elle a été heureuse, donc comme j'ai dit, sous Napoléon III, malheureuse comme ça, et heureuse sous Pétain pendant un ou deux ans. Ce n'est pas, et puis après ça, socialiste ou même communisante jusqu'en 68. Ça n'a pas été un parcours politique très malin.
Voilà. Hein? Mais est-ce que la partie justement après-guerre, c'est la tentation démocratique, celle du communisme. Mais lors de la tentation antidémocratique, vous montrez à travers la description du ralliement au romantisme, de ce que vous appelez le désétablissement, vous décrivez ce qu'on appellerait une perte de raison, une perte d'érudition. Nous évoquions tout à l'heure le travail intellectuel. Est-ce que précisément un personnage comme Benoît XVI se place à contre-courant d'un tel mouvement tel qu'il s'est développé au XIXe siècle?
Bon, d'abord, le courant antidémocratique, être socialiste ou être communiste, comme ont été certaines parties de l'Église de France après cette guerre-ci, ça ne doit pas être démocratique. La démocratie, j'appelle la démocratie, disons, l'acceptation de la société moderne, telle d'ailleurs que certaines parties de l'Église l'ont parfaitement comprise. L'Église belge, l'Église américaine, il n'était pas question de contester la démocratie en Amérique. Ça aurait été parfaitement suicidaire. Non, les phénomènes antidémocratiques, vous les trouvez en France, en Espagne, en Italie, pas tellement. Mais lorsque vous avez, et depuis 68 essentiellement, alors c'est le passage exagéré à la démocratie. Parce que l'Église, je n'ai jamais dit que la démocratie était un régime idéal. Simplement, c'est le régime moderne, si vous voulez. C'est le régime moderne. Et ce régime moderne a subi, à mon avis, depuis 68, une extraordinaire mutation qui n'est pas finie. Le régime démocratique n'existait que dans l'ordre du politique. C'était la démocratie représentative et politique. Et c'est ce qui s'est établi au XIXe siècle. Mais à partir de 68, la démocratie est sortie de son lit. et elle a touché tous les ordres de la société, c'est-à-dire le rapport du maître à l'élève, du médecin au malade, tous les ordres, etc., du couple, du mari ou à la femme, du père à l'enfant, enfin tous les ordres de la société sont entrés dans cet ordre démocratique qui avait été jusqu'ici réservé aux politiques. Eh bien, l'Église a été tentée par cela. L'Église a été tentée par cela, et vous avez eu même des tentations dans l'Église de faire entrer l'ordre démocratique dans l'Église elle-même. Vous avez eu déjà des petites tentatives dans le passé, je pense au rigérisme ou à des choses comme ça, ou même la constitution civile du clergé, dans laquelle les évêques étaient élus et les prêtres étaient élus, etc. Mais alors là, en 68, ça a éclaté. Ça a éclaté à la fin même du concile, c'est-à-dire en 1965. 68, c'est une date française, mais en fait, ce mouvement gigantesque dont je parle, qui a pris en France des formes particulièrement radicales, mais particulièrement ridicules et inadaptées, ça a commencé aux États-Unis. Ça a commencé aux États-Unis en 1964-5. C'est en 1967 que l'Église canadienne s'est volatilisée, par exemple. C'est une date importante pour l'histoire du Canada. En 68, bon, vous avez vu l'esprit parisien qui a donné une date, un chic, si vous voulez, parisien, machin, mais ça continuait après ça en Allemagne, aux États-Unis, ça traversait même le rideau de fer. Non, c'est un mouvement mondial. Et c'est une tentation pour l'Église parce qu'on n'y peut rien. Il y a deux choses qui font que l'Église ne peut pas être à l'aise dans cette démocratie généralisée. C'est que dans la démocratie généralisée, il n'y a pas de vérité, alors que l'Église prétend qu'elle possède une vérité dogmatique et puis qu'il n'y a pas à transiger là-dessus. Et enfin, deuxièmement, l'Église est hiérarchique. Elle est hiérarchique, on n'y peut rien. Elle est hiérarchique et le pouvoir n'est pas un pouvoir électoral. Le pouvoir du pape ne vient pas du peuple. Il ne vient pas du peuple, le pouvoir des évêques non plus. Il ne vient pas du peuple. Alors, une Église hiérarchique et une Église à prétention de vérité, eh bien, elle ne peut pas être très à l'aise en régime démocratique. Et c'est le cas aujourd'hui.
On dit, mon père, je me tourne vers le père Iborra, on dit que dans le parcours intellectuel du cardinal Ratzinger, le moment mai 68 a été majeur. Pourriez-vous nous éclairer justement sur cette évolution intellectuelle? Est-ce qu'il y a chez le cardinal Ratzinger un avant et un après mai 68, en quelque sorte? Et vous évoquiez tout à l'heure l'ordre qui est remis en cause. On connaît la fameuse phrase de saint Augustin, la paix et la tranquillité de l'ordre. Est-ce qu'en augustinien, le cardinal Ratzinger, tout simplement, souhaite remettre saint Augustin en avant?
Je pense qu'il n'y a pas d'avant et après 68 pour Ratzinger. S'il l'a vécu en tant que professeur, parce qu'il a eu l'impact des étudiants contestataires qui sont souvent ridiculisés d'ailleurs dans leurs excès. Mais je crois que c'est surtout Hans Kuhn qui essaie de faire croire que pour Ratzinger, il y a eu un avant et un après avec 68, parce qu'il voulait garder à l'esprit le péritus, l'expert au concile ouvert et d'avant-garde, le conseiller du cardinal Frings, qui, quand on lit les petits ouvrages qu'il a publiés après chacune des sessions du concile, on voit que, d'une manière générale, le théologien Ratzinger les soutient. Il les soutient d'une manière intelligente, en repérant, par exemple, comment tel ou tel aspect est effectivement un retour à des sources chrétiennes permettant de désobstruer des sources qui étaient bouchées, comment d'autres textes, comme en particulier Gaudium et Spes, peut être un texte un peu naïf. Et naïf, il le voit naïf à cause de son augustinianisme, là, pour le coup, parce que la perspective de un peu de Gaudium et Spes, c'est partir d'une nature à peu près commune avec tout le monde, et où le surnaturel, c'est-à-dire la différence spécifique chrétienne, n'apporterait en somme que des modifications périphériques, si j'ose dire. Et pour Ratzinger, c'est absolument impensable. Donc je pense qu'il n'y a pas véritablement de césure. Et aussi en théologie augustinien, il sait qu'il n'y a jamais eu une période qui a été une période parfaite pour l'Église. Et donc à chaque fois, et il le dira d'ailleurs dans un de ses textes après le Concile, il faut une conversion spirituelle qui permette de faire passer la théologie dans l'existence chrétienne proprement dite. Donc pour ça, je ne pense pas que 68 ait été pour lui une date qui ait eu un tel retentissement qui ait provoqué surtout un changement intellectuel. En fait, il était déjà très marqué par cette position, pour parler de théologie eucharistique qu'il a découverte à partir de la pensée de Henri de Lubac, avec l'idée que l'Église est tout à la fois une institution visible, le cardinal Bellarmine parlait de visible comme la République de Venise, et cette visibilité, elle se manifeste dans la célébration de la liturgie, qui est le lieu le plus visible de l'Église, avec ses églises en pierre, son congrégation, comme diraient les Anglais, c'est les gens qui se réunissent. Et puis, de l'autre côté, elle est en même temps, dans l'Eucharistie, il y a ce qu'il y a de plus invisible, donc ce qui correspond finalement à la requête protestante d'une Église qu'on ne saurait repérer, parce qu'il y a l'infini, l'invisible qui se donne sous la forme visible du sacrement. Et pour Joseph Ratzinger, l'Eucharistie est en même temps le lieu où le chrétien peut être en communion immédiate avec le Christ. C'est-à-dire à ce moment-là où le christianisme ne devient plus un isme, c'est-à-dire en fait quelque chose d'historique, une sorte de constitution d'une idée, etc., une doctrine et quelque chose, mais redevient véritablement quelque chose d'essence dialogale ou dialogique, comme le dirait Anselm Balthazar, par exemple, qui est un des grands inspirateurs aussi de Ratzinger.
Oui, malheureusement, je dirais, parce que Balthazar, je n'ai pas une immense admiration pour lui, c'est un homme immensément cultivé, mais incapable de conclure, et je me demande si ça ne tourne pas quelquefois un immense bavardage infiniment cultivé. Mais je voudrais revenir un peu sur ce point de Ratzinger et de mai 68. Ratzinger a été un petit garçon au moment du nazisme. Et le nazisme, il n'a pas vu, il détestait ça. Il détestait ça, mais il n'a pas compris en profondeur. C'est très difficile à comprendre, ces machins démoniaques. Il n'a pas compris le communisme non plus. Il y avait très peu de gens, d'ailleurs, qui avaient vraiment compris l'essence du communisme. Très, très peu. Et quelquefois, à force de droiture morale, des gens comme Maritain avaient plus ou moins senti ce que c'était. Mais ceux qui ont compris l'essence du communisme, c'est d'anciens gauchistes, comme Souvarine, comme Orwell. Ceux-là ont compris l'essence du communisme. Et je pense qu'un texte comme Gaudium et Spes est un texte de cave. Ils n'ont pas compris, hein, ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Eh bien, je pense que Ratzinger, pas davantage que les autres, jusqu'en 68. Mais en 68, il a vu les gens de la Rote Armee Fraktion. Hein, il a vu vraiment des idéologues durs. Or, et ça c'est un point important, vous ne comprenez ces formations mentales invraisemblables et vraiment profondément démoniaques, comme le communisme léniniste ou comme le nazisme, vous le comprenez par une intuition. Et si vous n'avez pas cette intuition, cet insight, hein, vous ne le comprenez pas. Prenez Reagan, par exemple. Reagan, le président Reagan, c'était pas un grand intellectuel, le président Reagan. Il avait pigé le communisme, pourquoi ? Parce qu'il l'avait eu en face de lui vers 1945, quand il a eu affaire au syndicat communiste d'Hollywood. Il a eu l'insight, il a compris. Il a compris et il n'a jamais varié là-dessus. Eh bien, je pense que c'est pas en 68, mais un peu plus tard, que Ratzinger a compris, a eu l'insight du communisme. Voilà.
Mon père ?
Je ne sais pas véritablement.
Et du nazisme, d'ailleurs.
Oui, peut-être. Je sais que le nazisme, en tout cas, il l'avait effectivement. Il en avait senti la.
L'horreur.
L'horreur.
Oui, mais on peut sentir l'horreur sans l'avoir compris.
Et oui, c'est tout à fait possible. Oui. Quant au communisme dans sa version subversive, dure, il l'a vu sur le visage de ses étudiants, c'est certain.
Mais oui, mais il faut une intuition métaphysique. Il faut une intuition métaphysique, ça, on ne comprend pas. On les trouve simplement durs, méchants, etc. Mais il faut que même cette intuition métaphysique que peu de catholiques ont eue, que très peu de catholiques ont eue, à leur grand détriment d'ailleurs.
Alors c'est justement l'objet de la tentation démocratique qui a touché l'Église, et vous décrivez dans votre ouvrage « Trois tentations dans l'Église ». Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans un instant.
Sciences de l'univers sont sur Canal Académie. Françoise Combe vous emmène au cœur des exoplanètes. Le paléontologue Philippe Taquet vous initie à la chasse aux fossiles. Suivez Claude Lorius en expédition au pôle Sud. Quant à Yvan Lemao, il vous propose d'observer les manchots en terre Adélie. Des rencontres uniques avec les académiciens des sciences, à télécharger librement, sans plus tarder, sur Canal Académie.
« Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur du livre « Trois tentations dans l'Église ». Nous évoquons la personne intellectuelle Benoît XVI face à ces trois tentations dans l'Église. Et je reçois également au micro de Canal Académie le père Iborra qui vient de traduire le livre d'Edan Nichols, « La pensée de Benoît XVI, introduction à la théologie de Joseph Ratzinger ». Alors vous avez évoqué tout à l'heure, mon père, en tous les cas on a essayé de voir s'il y avait une rupture sur le moment de mai 68. Il y a non pas une rupture, mais une notion de continuité qui est importante ou qui se révèle à travers le pontificat de Benoît XVI. C'est le fameux discours du 22 décembre 2005, si mes souvenirs sont bons, où il tient à montrer justement, il ne tient pas à faire du Concile Vatican II un concile moderne, tourné plutôt vers la modernité, mais il tient à mettre en œuvre en fait ce qu'on a appelé une herméneutique de la continuité. Alors comment considérer cette continuité et à quand au fond remonte cette idée ?
Oui, ce discours est, je crois, assez marqué parce que dans les années qui ont suivi immédiatement le concile, Ratzinger à plusieurs reprises va dire on se retrouve quasiment avec les antithèses du sermon sur la montagne. Vous avez entendu dire que, moi je vous dis que, un certain nombre de prêtres, voire d'évêques, remettaient en cause systématiquement tout ce qui avait été cru, célébré, en réutilisant des schèmes intellectuels tirés du protestantisme libéral, la démythologisation, etc., etc. Et bien Joseph Ratzinger
ou du marxisme,
ou du marxisme, oui, 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 exactement,
ça va l'être tranquillement, comme si c'était il y a eu la
théologie de la libération,
quand
la théologie
même,
de la libération
quand même, qui
oui.
a fait ravager le christianisme en Amérique latine.
Oui, exactement. Et alors je crois que Joseph Ratzinger, alors là par exemple pour la question de la théologie de la libération, le travail qu'il avait fait pendant ses années d'études sur Saint Bonaventure qui relisait Joachim de Flore, dont d'ailleurs le cardinal de Lubac a donné un très très bon livre, La postérité spirituelle.
Oui, excellent bouquin.
Montrant comment le marxisme est une manière de réinjecter l'eschatologie à l'intérieur de l'histoire et donc de réaliser cette fameuse dernière, ce dernier stade du développement de l'Église dans lequel on arriverait à une société parfaite, réconciliée, en deçà de la parousie. Alors que pour Joseph Ratzinger, c'est quelque chose qui est absolument...
Qu'on appelle le millénarisme.
Le millénarisme, c'est ça.
Et que vous décrivez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Mm-hmm. Oui, oui, bah, vous avez des crises récurrentes de millénarisme. Voilà. Mais et 68 a été... Je ne dis pas que le Concile a été millénariste. Les textes du Concile sont tout à fait corrects, et même quelquefois très bons.
Mais, au minimum, quand même très optimiste, notamment pour...
Donc, Gaudium et Spes, il y a quand même un peu de
millénarisme.
Oui, puis un peu de bêtise, Sophie. Non, mais c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il y a une non-considération de la réalité comme
oui,
elle est.
Voilà, c'est ça. C'est la réalité telle qu'on la souhaite, apparemment.
Oui, mais ça, c'est très embêtant, si vous voulez.
On observe que
les pauvres gens
le mieux.
Les pauvres gens en Pologne ou en Tchécoslovaquie, quand ils voyaient
la même chose,
ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Donc, vous avez une crise millénariste dans l'Église au lendemain de 68, et une crise iconoclaste aussi.
Exactement.
Une crise iconoclaste, c'est-à-dire qu'on a vidé les églises, cassé les vitraux, comme on avait fait déjà au XVIe siècle ou d'autres époques.
Et une vision dialectique de l'histoire de l'Église ou de l'histoire du dogme ou de l'histoire des dévotions, etc. Moi, je m'en suis même rendu compte quand j'étais étudiant à Rome dans les années 80, où nos professeurs, qui étaient une quarantaine, cinquantaine d'années, avaient tendance à tout lire avec un schéma d'explication purement dialectique.
Ce que vous entendez par dialectique ?
Alors dialectique au sens presque hegelien, c'est-à-dire qu'on a le Concile de Trente qui pose une chose, on va voir le Concile de... Alors Vatican, il n'a pas tout traité, mais Vatican II va prendre la position inverse, et puis on arrive à une sorte de synthèse en attendant que l'histoire se vous voyez, cette espèce d'entrechoquement des...
Enfin, c'était surtout très bête, une fois de plus. C'est ça qui est embêtant, encore une fois, dans l'Église. C'est pour ça que le problème de l'intelligence est très important. Quand même, il faut voir les choses comme elles sont. Or, l'Église a peu été capable de voir les choses comme elles sont. Hein, c'est ça qui est embêtant. Et alors, silence sous Hitler, silence sous le communisme, très long silence sous le communisme, et aujourd'hui, depuis 20 ans, silence sur l'islam.
Et puis avec une hétéro-interprétation, c'est-à-dire on va chercher les grilles de lecture en dehors de la foi.
Et de la réalité, c'est encore plus important. Encore plus important que la foi.
Je voudrais quand même revenir à cette fameuse herméneutique de la continuité. Si vous pouviez la commenter, mon père, de quand date cette idée du cardinal Ratzinger, puis de Benoît XVI, qui tend justement à, j'allais dire, recoller en quelque sorte ces morceaux. Vous présentiez d'un côté le Concile de Trente, de l'autre côté le Concile Vatican II. Est-ce que Benoît XVI, au fond, souhaite faire, non pas une synthèse, mais en tous les cas, corriger le...
Vous savez, l'œuvre de Benoît XVI, c'est une œuvre extrêmement composite, celle d'un professeur qui avait beaucoup d'occupations, qui s'est, effectivement, comme vous disiez, par la différence avec Balthazar, peut-être même avec Bouillet, c'est qu'il n'a pas eu énormément de temps pour faire une œuvre personnelle. Je pense que c'est une œuvre plutôt dogmaticien qui commente.
Il n'y a pas de synthèse. C'est la vérité.
Et c'est normal. D'une certaine manière, c'est normal parce qu'une synthèse de la part d'un esprit humain, c'est toujours quelque chose qui restera limité, qui sera dépassé. Tandis que ce que comprend très bien Ratzinger, c'est qu'il s'inscrit dans une tradition. Et la tradition, c'est la foi du peuple de Dieu dans sa telle qu'elle va s'exprimer à travers les vicissitudes de l'histoire. Et donc, elle ne prétend jamais avoir le dernier mot. Ratzinger souligne la différence entre l'unité de la foi et la pluralité des théologies. C'est-à-dire que son espèce d'énervement vis-à-vis de la néoscolastique...
Oui, il est contre la pluralité dogmatique. C'est même ça, sa bête noire.
Alors, il faut distinguer...
Il est anti-relativiste. Il pense qu'il y a une vérité.
Il pense qu'il y a une vérité et qu'à la différence, par exemple, des théologiens marxistes, ce n'est pas une vérité qui serait accessible dans le futur, une vérité vers laquelle on s'orienterait de manière asymptotique. Non, la vérité, pour lui, elle est donnée à l'origine, dans le dépôt de la foi, tel qu'il est porté par la tradition, dont l'écriture est la poutre maîtresse.
Donc il est anti-thélardien.
Oui, tout à fait. Et alors, pour lui, à mon avis, il est très newmanien, pour le coup, parce qu'il fait bien cette distinction.
C'est l'idée du développement homogène.
Homogène et organique
de
la doctrine chrétienne.
De la révélation.
C'est-à-dire que la foi est donnée à l'origine dans le moment évangélique, au sens le siècle fondateur de la tradition, avec la production des Écritures, la révélation qui est close à ce moment-là, mais la révélation qui est toujours susceptible de nouvelles interprétations, de nouvelles découvertes, sous l'influence aussi bien des intellectuels, c'est-à-dire des théologiens,
puis la réalité.
Et des théologiens inspirés par la foi, c'est-à-dire des théologiens qui sont aussi des mystiques.
Puis le développement de l'histoire et de la réalité.
Et de la réalité,
tout simplement.
Exactement, qui fait apparaître de nouveaux aspects. Par exemple, l'avènement de l'esprit démocratique va faire certainement apparaître de nouveaux aspects dans la révélation chrétienne, mais qui sont toujours réinterprétés à partir d'une foi qui est donnée à l'origine. Et alors, pour ça, Ratzinger insiste beaucoup sur l'unité de la foi et la pluralité des approches théologiques. Il parle même de symphonie en matière théologique. Mais ce n'est pas du tout du relativisme, parce que le relativisme, ça consisterait à considérer que la tradition n'est plus porteuse d'une vérité.
Par exemple, des expressions qu'on emploie tout le temps aujourd'hui, les trois religions du livre, les trois religions monothéistes, les trois religions abrahamiques, etc. C'est un relativisme absolu, c'est-à-dire que toutes les religions se valent, etc. Ben non, c'est pas qu'elles ne se valent pas. Enfin, je ne sais
et
pas.
Elles
sont à pas à égale distance de la vérité. Voilà ce qu'il faut dire. Et ça, là-dessus, Ratzinger est très ferme, et je crois qu'il a raison de l'être.
Vous parliez tout à l'heure, dans la tentation démocratique, du passage du politique à toutes les dimensions de la société, qui va aboutir effectivement à une sorte d'affaissement de la raison qui n'ose plus. Dans de nombreux de ses écrits, Joseph Ratzinger insiste sur le fait qu'il faut sauver la raison dans le domaine profane, et parce que la raison a été, dans son analyse, réduite, considérée comme efficace uniquement dans le domaine des sciences et des techniques. Et du coup, on a une sorte de peur d'utiliser la raison dans tous les autres domaines.
Oui, c'est justement la déshumanisation, n'est-ce pas? Par exemple, vous avez dans l'Église des gens qui disent « mais c'est très dommage que l'Église ne soit pas restée uniquement en hébraïque, en hébreu, etc. » Non, le discours de Ratzinger, c'est une défense de la raison grecque.
Exactement, de la raison grecque, qui est déjà présente dans les... Parce que la grande sottise qui est avancée, c'est qu'il n'y a pas d'hellénisme dans la Bible. Parce que c'est faux.
Bien sûr.
Quand même, il y a il y a au moins déjà un quart de l'Ancien Testament qui est écrit en grec, dans une période qui est déjà marquée par l'hellénisme. Et donc l'hellénisme fait déjà partie de la tradition biblique. Et donc Ratzinger va souligner cette importance que la raison a à être utilisée dans le domaine...
Mommsen disait même que les pharaons d'Égypte ont utilisé les juifs pour diffuser l'hellénisme, et c'est pour ça qu'ils ont favorisé les Septante, la traduction en grec des Septante. C'est ce que disait Mommsen. L'autorité.
Alors qu'il a dû se heurter à arnaque.
Il y a une véritable continuité, en fait, entre le discours de Ratisbonne, le discours à la Sapientia, qui n'a pas pu prononcer malheureusement.
Ah oui, c'est cratilé, ça.
Mais qui a été publié, et finalement le discours du Collège des Bernardins.
Sans compter.
Revenons un peu quand même à sa première encyclique. C'était sur la... qu'on a traduit Dieu est amour. Non,
il fallait Dieu pas traduire.
Dieu est charité. Ben oui, alors on a traduit. C'était déjà un premier contresens. C'est que le fond de cette encyclique, c'est de désérotiser. Hein, l'amour chrétien, parce que maintenant tout est amour, n'est-ce pas? Et alors l'amour était complètement érotisé. Donc il a fait la distinction, il y a la charité et l'amour. Du coup on traduit Dieu est amour alors que c'était Dieu est agapé. Bon, c'est déjà et extraordinaire d'ailleurs que cette traduction soit passée. Bon, c'est premier acte. Ça c'est l'anti-68isme, si vous voulez, dans le tout amour. Hein, contre le tout amour. Deuxième encyclique. Ben c'est une encyclique antimillénariste, c'est-à-dire que sommes-nous en droit d'espérer ? Il ne faut pas espérer quelque chose de formidable, il faut simplement avoir l'espérance, qui distingue de l'espoir d'ailleurs, parce que les choses peuvent aller très mal. Enfin, l'espérance est une vertu, nous ne sommes pas en droit d'espérer tout, il n'y aura rien de, rien de parfait.
À cet égard, c'est lui qui a insisté pour que dans le catéchisme de l'Église catholique, au moment où on aborde les fins dernières, c'est-à-dire la fin du monde, il a demandé à ce qu'on dise que justement l'Église passera par une sorte de passion qui sera semblable à celle dont sa tête, c'est-à-dire le Christ, est passée. Elle n'ira pas probablement vers une sorte d'amélioration, d'irénisme, de...
Au contraire, conforme à l'Apocalypse.
Exactement.
Et c'est conforme à un texte que j'aime beaucoup, celui de Soloviov, je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
Ah, c'est un texte très beau. Mais il pense qu'à la fin, il n'y aura plus que trois chrétiens, un protestant, un catholique, un orthodoxe et les juifs. Voilà ce qui est. Voilà, c'est ça qu'il pense.
Et
ça ne paraît pas tellement invraisemblable.
Oui, tout à fait. Oui.
Ça s'appelle trois conversations.
Ou Eric Peterson aussi, qui était un des...
Peterson, c'est un peu le même genre.
Oui. Un des maîtres de Ratzinger, enfin sinon des maîtres au moins des théologiens qu'il a étudiés.
Oui.
Je reçois Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et le père Iborra, qui vient de traduire La pensée de Benoît XVI, introduction à la théologie de Joseph Ratzinger, un ouvrage d'Edan Nichols. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Canal Académie vous propose un grand entretien avec Michel Serres, de l'Académie française, sur la notion d'identité. Quelle différence entre identité et appartenance ? Qu'est-ce que l'hominescence ? Quel rapport entretenons-nous avec notre corps ? Autant de questions auxquelles répond Michel Serres dans une émission Éclairage en libre téléchargement sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Benoît XVI. Benoît XVI face aux trois tentations dans l'Église. Les trois tentations dans l'Église étaient un livre d'Alain Besançon et je reçois Alain Besançon au micro de Canal Académie avec le père Iborra. Les trois tentations dans l'Église, un ouvrage réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus, et le père Iborra qui vient de traduire donc le livre La pensée de Benoît XVI, introduction à la théologie de Joseph Ratzinger, d'Edan Nichols, un ouvrage paru chez Ad Solem. Alors, après avoir évoqué la pensée de Benoît XVI, la question de mai 68, la question de l'antidémocratisme, de la démocratie, il y a une dernière tentation, c'est la tentation de l'islam. Et c'est une tentation donc, que vous décrivez dans votre ouvrage, Alain Besançon, mais si je puis dire, vous avez, si vous me permettez cette expression, vous avez remis le couvert avec cet article écrit dans Commentaire, donc dans le numéro 120 de l'hiver dernier, hiver 2007-2008, le Vatican et l'islam. Mais nous vous évoquions tout à l'heure l'inégalité des religions et vous partez dans votre texte des deux déclarations qui citent l'islam du Concile Vatican II. Il y a tout d'abord la première déclaration dans Lumen Gentium et la deuxième dans Nostra Aetate. Alors, Benoît XVI, face à l'islam, c'est un sujet, je ne vais pas dire douloureux, mais c'est un sujet assez polémique.
Bah, c'est un sujet extraordinairement d'actualité. Enfin, quand même, les musulmans sont maintenant aussi nombreux que les catholiques et bientôt plus nombreux. C'est une religion très solide, c'est une religion très imposante, c'est une religion prosélyte, hein, c'est une religion totalement incompatible avec le christianisme. Et c'est ça, justement, qui a été plus ou moins nié dans la suite de Vatican II et surtout de l'enseignement extraordinairement pernicieux de Massignon, hein, qui était vraiment un concordiste et qui croyait vraiment que l'islam, c'était la foi d'Abraham et que le Coran, c'était quelque chose de substantiellement biblique. Alors ça, c'est Massignon était un grand savant, qui a eu beaucoup d'élèves, dont quelques-uns ont eu le courage de s'opposer à lui. Je pense en particulier au père Jomier, hein, un dominicain. Je pense aussi, dans une certaine mesure, à Gardet. Mais cela, l'aura de Massignon est restée extrêmement puissante dans l'Église. Et je pense que ceux qui ont rédigé un peu, avec beaucoup de, un peu par-dessous la jambe, ce texte de Nostra Aetate, étaient des massignoniens ou des gens autour de Massignon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous savez, il y avait le problème des Juifs. Et là, c'est un problème très important pour l'Église. Et on a énormément travaillé la question des rapports entre judaïsme et christianisme, des Juifs et des chrétiens dans le peuple de Dieu, pendant tout le Concile de Vatican. Ça a été une question cruciale et, à mon avis, d'ailleurs résolue avec succès. Hein, ça a été bien fait. Ça a été bien fait. Mais à ce moment-là, vous avez eu des criailleries d'évêques du Moyen-Orient, disant, bah, si on parle des Juifs, alors les musulmans, alors, surtout qu'ils vivent sous l'islam. Et là, un peu sur un coin de table, on a rédigé une déclaration sur les musulmans in extremis, sans beaucoup y faire attention. Je ne sais pas qui l'a rédigé. Jomier pense que c'est plus ou moins Conga, mais enfin, il ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Mais cette déclaration a quelque chose de catastrophique. Pourquoi? Bah, parce qu'elle introduit entre la religion biblique, c'est-à-dire les Juifs et les chrétiens, hein, qui ont pleine autorité, qui ont la même révélation, qui ont la même foi, substantiellement, entre eux et les païens, espèce extrêmement honorable. Alors, moi, je n'ai rien contre le paganisme gréco-romain, le paganisme germanique, le paganisme sud-américain, etc., etc., qui a une vocation d'ailleurs à se convertir. On a introduit un intermédiaire qui est mieux que le paganisme et un peu moins bien que la religion biblique, qui est l'islam. Et là, je pense que c'est une grosse erreur et je pense que le pape en a conscience. Seulement voilà ce qui s'est passé. Le pape a abordé dans un coin de ce remarquable discours de Ratisbonne, qui est une leçon magnifiquement savante, qui n'a pas
entré en matière.
Mais non, mais qui n'est pas du tout destiné d'ailleurs à parler de l'islam. Ouais.
Et il avait lu votre livre. Il avait lu votre livre parce que vous en parlez, vous, de Manuel II.
Et d'ailleurs, il aborde l'islam de façon pas très, à mon avis, pas très heureuse, puisqu'il reproche à l'islam de ne pas être rationnel, alors que l'islam se donne pour une religion rationnelle. Et il l'est d'une certaine façon beaucoup plus que le christianisme. Parce que le christianisme, la Trinité, l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie, tout ça, c'est pas rationnel.
C'est suprarationnel.
Mais c'est pas rationnel.
C'est
aux
yeux de la foi.
Aux yeux de l'islam, c'est pas rationnel. L'islam est donné pour une religion rationnelle. Et d'autre part, bon, il reproche aussi aux musulmans d'être violents. Les musulmans ont dit, mais nous ne sommes pas violents du tout. Et pour le prouver, ils ont immédiatement égorgé deux ou trois chrétiens à droite, à gauche, etc. Mais enfin, c'est pas ça la question, parce que les chrétiens aussi ont été violents. Alors, tout le monde l'a fait connaître. Enfin, il y a eu des violences chrétiennes assez gratinées au cours de l'histoire. Non, c'est pour ça que l'islam n'a pas été abordé par le meilleur des angles. Et puis, alors, le pape a essayé, alors, ça fait un tollé universel, et en particulier les chrétiens, on trouve ça très très mal que le pape ose dire des choses pareilles sur l'islam, nos frères, religion abrahamique, religion du livre, etc., etc. Bon, le pape, et puis en même temps, il massacrait un peu. Alors le pape s'est trouvé dans un problème de conscience et a essayé de calmer le jeu, si vous voulez. Il est allé à Istanbul Et là, à Istanbul, on lui a fait faire un peu des choses dramatiques. On lui a fait prier dans la mosquée bleue, on lui a fait prier dans la direction de la Qibla, c'est-à-dire aux yeux d'un musulman. C'est comme si c'était à moitié converti. Hein, c'est extrêmement grave. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une chose pareille. Mais enfin, tout le monde a été content. Enfin, la réconciliation, l'amour. Le pape ne peut pas, en ce moment, revenir sur la question de l'islam. Or, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, parce que quand même, on a reproché à l'Église le silence devant le nazisme, qui était d'ailleurs assez relatif. On lui a reproché le silence sous le communisme. Et ça, c'était effectivement, pendant 20 ans, on n'a pas prononcé le mot communisme. Alors qu'on souffrait sous le communisme, c'est extrêmement grave. Et puis les chrétiens n'ont pas une bonne doctrine sur l'islam. Donc il y a un troisième silence de l'Église sur l'islam. Et ça me paraît dramatique, parce que l'islam continue de s'étendre, et puis on se convertit. Et si on ne dit pas aux chrétiens que c'est une autre religion, et que c'est une religion incompatible, et bien ils se convertiront, comme ils le font d'ailleurs, pas mal.
Alors précisément, Benoît XVI, dans sa conception, dans sa pensée tout simplement théologique, nous parlions de relativisme tout à l'heure, nous disions qu'il se plaçait contre le relativisme, c'est même un leitmotiv dans son œuvre.
Très présent déjà, dans sa prédication du Colisée, juste l'année où Jean-Paul II est mort, en 2005, où il l'avait remplacé, il avait parlé de la barque de l'Église qui prenait l'eau.
De toutes parts. Voilà. Mais précisément, est-ce que, mon père, je me tourne vers vous, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, au fond, entre la mosquée bleue, l'affaire de la mosquée bleue, qui est ni plus ni moins qu'une affaire médiatique, en tous les cas, qui paraît comme
non,
telle.
C'est pas beaucoup plus grave qu'une affaire médiatique. Qu'un pape entre dans cette mosquée, qui a été élevé par je ne sais quel sultan, en face de Sainte-Sophie, pour montrer le triomphe dans l'islam, que le pape se mette devant la Qibla, c'est-à-dire dans les directions de la Mecque, pour se recueillir. Mais se recueillir pour un pape, c'est prier. C'est un acte tout à fait innocent dans son esprit, mais pour les musulmans, c'est un succès colossal.
Mais je voudrais terminer ma question, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette image, cet acte, qui est grave aux yeux de la religion catholique, et au fond, c'est cette lutte contre le relativisme?
Je pense que pour Benoît XVI, l'islam n'est certainement pas une priorité dans sa réflexion. En tant que théologien, dans son œuvre, ce n'est pas un sujet qui... Il ne connaît pas, il l'aborde très peu, il s'intéresse davantage à ce qu'il appelle les mystiques individualistes, en particulier au bouddhisme. Pour lui, c'est le plus grand défi, lié au relativisme, c'est l'espèce de subjectivisme religieux qui va trouver sa concrétisation dans les religions de l'extrême-orient à la française, enfin à l'européenne ou à l'occidentale, qui vont prétexter d'une expérience un peu piétiste, une expérience un peu à la Schleiermacher, et qui vont...
Ou à la pentecôtiste, tout simplement.
Oui, voilà, et qui vont se manifester par cette espèce de oui, c'est ça, ce qu'il appelle de mystique de l'individualiste. Alors, il aborde assez peu la question de l'islam, parce que pour lui, c'est évident que l'islam n'est pas une révélation.
Oui, mais alors là, d'abord, il y a une ignorance prodigieuse du monde catholique et même dans les sphères les plus élevées au sujet de l'islam. Ça, j'ai pu le constater à Rome quand j'ai pu parler.
C'est là qu'on s'aperçoit que c'est un théologien allemand. Et la question de l'islam dans l'Allemagne, les années 60-70, ce n'est pas une question qui se posait.
Oui, c'est vrai.
Parce que vous terminez, Alain Besançon, votre article dans la revue Commentaire, Le Vatican et l'islam, par un mot quand même qui est lourd de sens, c'est le silence. C'est le nom de votre paragraphe. Ouais. Alors, est-ce que la politique, au fond, de Benoît XVI n'est-elle pas de resserrer l'identité chrétienne par ce travail pédagogique pour justement y faire face ?
Vous avez quelques marginaux qui essayent de redresser les choses. J'avais un excellent père libanais qui avait fait un très bon livre, qui m'avait demandé de faire une préface. Que les évêques ont fait sauter d'ailleurs, parce que d'autres trucs, après ça, c'était pas politiquement correct. Mais enfin, bon, le pauvre père avait fait quand même un livre excellent qui est encore là, du père Moussali, sur l'islam et le christianisme. Vous avez un professeur de Toulouse qui s'appelle Urvoy, qui a fait un livre très bon. Vous avez Rémi Brague, qui est un jeune et remarquable philosophe, et qui a fait un excellent livre sur la loi de Dieu. Enfin, il parle très très bien de l'islam.
Annie Laurent aussi.
Annie Laurent, à un niveau plus journalistique,
oui, plus conférencier,
mais très sympathique. Mmh. Vous avez un début, si vous voulez, de résistance.
De résistance. Hein,
dans ce fleuve de marshmallow, tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon, tout le monde il est chrétien, ou même encore mieux musulman.
Vous soulignez souvent qu'une des tentations modernes, aussi bien visée en politique que dans le domaine religieux, et en particulier interreligieux ou même œcuménique, c'est la volonté de ne pas avoir d'ennemis.
Ah ben oui, mais ça... Ça, c'est ça, le jour où les catholiques admettront qu'ils ont des ennemis et qu'il faut les traiter comme des ennemis, c'est-à-dire finalement les aimer, mais d'abord les nommer comme ennemis, ça, nous ne sommes pas prêts.
Eh bien, c'est sur quelques mots peut-être un peu pessimistes que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup, Alain Besançon, d'être venu au micro de Canal Academy, donc pour évoquer la pensée de Benoît XVI face à vos trois tentations dans l'Église. Les trois tentations dans l'Église, donc un ouvrage paru aux éditions Perrin dans la collection de poche, la collection Tempus. Et je vous recommande également la lecture du livre traduit par le père Iborra, donc La pensée de Benoît XVI, introduction à la théologie de Joseph Ratzinger, un livre d'Edan Nichols paru aux éditions suisses. Solem. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci vous.
Merci. Pour un nouveau numéro d'éclairage.